terminer ce propos par un dernier point sur les perspectives. La mise en regard des nouvelles menaces avec l'obsolescence des outils offerts par les Nations Unies, car nous sommes là. Nous avons des menaces nouvelles et assez inquiétantes quand même. Et nous avons des outils absolument inadaptés. Alors, les perspectives, je les trouve, moi, effrayantes, parce que les innombrables foyers de violence dans le monde nourrissent les inimitiés et tournent en haine, conduisent à la barbarie que nous savons, et puis on voit des nouveaux foyers qui se déclenchent pratiquement chaque jour. Et le monde est livré à cette violence alors que les mécanismes qu'on avait prévus ne fonctionnent pas. On peut même dire qu'ils ont été liquidés. Actuellement, ils sont liquidés. Donc il faudrait entreprendre, et c'est là que je suis heureuse de m'adresser à votre organisation, l'Université pour la paix, hein, parce qu'on est bien sur ces questions-là. Il faudrait entreprendre des réformes fondamentales sur trois terrains, militaire, économique et politique, et les trois en même temps. Un tout seul, ça ne donnera rien. Alors, du point de vue militaire, on a assisté au glissement des guerres interétatiques, à ces guerres mixtes qui caractérisent la période actuelle, qui mettent en jeu des rivalités entre États qui sont doublées de conflits interethniques ou de conflits interreligieux à l'intérieur d'un même État. Et cela a deux conséquences. Il s'agit de conflits indéterminés, on les appelle, les spécialistes de la géopolitique, les appellent les guerres asymétriques, dans lesquelles les protagonistes sont eux-mêmes difficiles à identifier. Mais il est vrai que, d'un côté, vous le voyez bien actuellement avec ce qu'on appelle Daesh, l'État islamique, etc., vous avez des armées super sophistiquées. L'armée américaine est réputée pour être la plus forte du monde. Et en face, des combattants d'un genre très différent. Mais d'ailleurs, on a commencé à connaître ça avec les guerres de libération nationale, de la décolonisation, hein. Là aussi, les États-Unis, la France n'a pas gagné la guerre d'Algérie, les États-Unis n'ont pas gagné la guerre du Vietnam, alors que le rapport des forces militaires n'était pas en faveur de ceux qui ont gagné ces guerres. Donc on a des guerres asymétriques. On parle d'ailleurs de nébuleuses, parce qu'évidemment, d'un côté, les gens sont mêlés à la population complètement. Et il y a alors des phénomènes de renvoi d'un conflit qui peut être local. Je pense par exemple à la guerre civile en Centrafrique. Ça, c'est une guerre très, très localisée entre les chrétiens et les musulmans, une guerre qui a éclaté tout d'un coup de manière extrêmement violente dans ce pays. Mais il y a renvoi à un autre conflit de beaucoup plus grande extension. Et on le voit bien pour la Centrafrique, parce qu'ils sont pris dans l'autre guerre, celle des mouvements islamistes radicaux engagés contre l'Occident. Et alors, les moyens ne sont plus seulement ceux des guerres classiques par affrontement entre deux armées. Ils sont beaucoup plus complexes avec l'intervention notamment du terrorisme, venant d'en faire une sinistre expérience, et aussi de la piraterie, qui joue maintenant un rôle considérable dans certains conflits. Et cette violence, évidemment, prend un caractère très dangereux avec la généralisation des armements et la facilité qu'ont les belligérants à s'en procurer. D'ailleurs, on est là dans les enquêtes en France actuellement, à essayer de retrouver comment les protagonistes du massacre de Charlie Hebdo et de l'attentat qui a suivi dans le magasin Kacher, comment ils s'étaient procurés des armes de guerre. Ça n'est pas très difficile. Alors, la guerre, cette guerre globale, elle n'épargne pas les pays développés, d'abord comme le montrent les attentats, mais surtout, il ne faut pas oublier que les grandes puissances dont nous faisons partie, ils sont directement mêlés comme fournisseurs d'armes. C'est ce phénomène qui s'est accéléré ces dernières années de la militarisation des économies mondiales. Nos économies sont militarisées. Et ça s'est rendu très visible par la transformation des responsables politiques en voyageurs de commerce et dans entreprises d'armement. Il n'y a pas un voyage d'un chef d'État occidental qui ne soit pas accompagné d'un avion plein d'entrepreneurs d'armement pour aller vendre nos bricoles, qui ne sont pas des bricoles, là où va le chef de l'État. Et Muammar Kadhafi, dont les exactions contre le peuple libyen ont déclenché l'opération dont je parlais tout à l'heure, comme avant lui Saddam Hussein, président d'Irak, était parmi les principaux chefs d'État acquéreurs d'armes, courtisés à ce titre par tous les États qui se veulent leaders sur le marché de la production d'armement et dont les économies sont complètement conditionnées par ce commerce. Et on sait très bien que les opérations qu'on fait après consistent à détruire par la guerre des armes meurtrières qu'on avait soi-même livrées. Donc c'est super pour les marchands d'armes. Et la situation qui prévaut en Syrie depuis mars 2011, dans laquelle, vous savez, le gouvernement de Bachar al-Assad écrase par des bombardements aériens la rébellion du peuple, qui au début était une vraie rébellion d'un peuple contestant la dictature, cette attitude, cette situation appelle les mêmes remarques. Ces armes, c'est nous qui les avons vendues à la Syrie, hein, nous, enfin l'Occident. Et ce paradoxe met en lumière l'insuffisance des principes qui régissent l'octroi des autorisations d'exportation d'armes par les pays producteurs. Parce qu'il y a des règles. Si vous fouillez dans les manuels de droit international, on va vous expliquer que bien sûr, il y a des règles. Il y a des règles, sauf qu'elles ne sont pas appliquées ou elles sont très floues. Et ça éclaire aussi l'absence de rigueur qui préside aux décisions internationales d'embargo sur les armes. Les embargos sont au coup par coup, ils sont inadaptés à la recherche de la paix, et puis ils se situent sur un fonds d'expansion illimitée des ventes d'armes. J'ai une autre anecdote qui m'avait été racontée par quelqu'un des Nations Unies, dans la force qui est intervenue en Yougoslavie. Alors, c'était des soldats des Nations Unies qui étaient là pour surveiller l'embargo sur les armes, puisqu'on avait mis un embargo sur les armes à destination de la Serbie. Donc ils étaient là, ces braves soldats de l'ONU, mais ils n'étaient pas très nombreux. Et notamment, ils étaient pas loin du passage de trains. Et alors, ils voyaient passer des trains chargés d'armes en direction de la Serbie, mais ils étaient deux ou trois, un petit poste de commandement des Nations Unies. Alors, ils faisaient un rapport à New York. Tel jour, telle heure, avons-nous vu passer un train qui semblait chargé de telle sorte de munitions en direction de Belgrade. Ils signaient, ils envoyaient à New York. Puis le lendemain, ils voyaient passer un autre train. Ça s'appelle surveillance de l'embargo.